une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous mensuel avec le Parc des Grands Causses. Ce mois-ci, focus sur un concept théorique qui devient de plus en plus concret, l'économie circulaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, pour ouvrir le sujet, donnons la parole à un acteur de terrain, engagé depuis longtemps dans cette démarche, Jean-François Caron, maire de la ville de Loos en Goële et conseiller régional écologiste dans la région Nord-Pas-de-Calais. Cet homme, avec son équipe, a mis en œuvre un vrai plan pour tenter de transformer son ancienne cité minière en un laboratoire de la transition énergétique et a mis en œuvre l'économie circulaire. Il y a quelques mois, il était venu donner une conférence à Millau, justement, dont nous vous proposons justement d'écouter un extrait où il présente les grands principes de l'économie circulaire.
Quelques mots pour la définir, la plus sobre possible en consommation de matière. J'insiste là-dessus, l'économie circulaire, ça n'est pas le recyclage du papier. Le recyclage du papier est un élément. Mais c'est d'abord comment on réduit l'usage de la matière. C'est d'abord ça dans l'économie circulaire. Et donc, comment on rompt avec ce cycle infernal ? Je prélève, j'extrais, je consomme, je rejette. Ça veut dire qu'on retrouve les questions de sobriété, les questions de recyclage et les questions de matériaux biosourcés, du végétal ou de l'animal. Puisque là, on a affaire à des ressources qui peuvent, à la limite, en boucle, être produites indéfiniment. Les quatre enjeux principaux que donc moi je vois sur l'économie circulaire, c'est comment on diminue la consommation de matière et d'énergie, puisque l'énergie c'est de la matière au départ, dès la conception. C'est donc vraiment un cheminement intellectuel dès le début de la conception du produit. Comment on favorise le réusage et le réemploi ? Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises pratiquent l'obsolescence programmée. Ça veut dire au bout de 5 ans, il faut que ça tombe en panne. Parce que comme ça, ça va faire racheter. Et donc, aller au maximum vers du renouvelable, j'ai déjà dit, et recycler la matière. C'est toute la question des circuits courts qui est posée par l'économie circulaire, toutes les boucles locales, sous toutes leurs formes. Ce sont des opérations de ce type. Notre église est la première de France à être en solaire. C'est génial d'ailleurs, parce que ça nous a permis de faire un travail avec la communauté catholique de la ville, et l'évêque nous a fait une super lettre, et j'ai plein de maires qui viennent me voir, hein, parce que c'est ça la question, parce qu'on est beaucoup dans des questions de conduite de changement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on y va ou qu'on n'y va pas, quoi, c'est des questions culturelles. Maintenant, on rentre dans comment on fait pour décliner l'économie circulaire. La pensée cycle de vie, ça veut dire que vous devez d'abord vous poser la question de l'extraction des ressources. Comment on les extrait ? Est-ce que vraiment on a besoin de ressources non renouvelables ? Et donc, il y a une analyse de tous les coûts à ce stade. Puis, il y a les mécanismes de production. Et c'est par exemple à cet endroit-là qu'intervient ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, l'écologie industrielle. L'écologie industrielle, c'est dans les grandes zones du type Fos-sur-Mer, Dunkerque, Le Havre ou Lyon. C'est comment les entreprises partagent ensemble. Les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre. La chaleur d'une usine est utilisée dans l'activité d'à côté. Donc le process de production et de transformation est très important. Toutes les questions de distribution sont également très importantes. Aujourd'hui, vous avez un internet de la logistique, mais par exemple, est-ce que Amazon, quand il vous envoie un petit truc que vous achetez par internet et que ça fait je ne sais pas combien de kilomètres, quel est le bilan carbone de cette affaire ? C'est pas sûr que ce soit mieux de procéder comme ça plutôt que d'avoir des structures de regroupement. Donc la logistique est considérablement concernée par ces questions. Toutes les questions d'usage, de maintenance et de réemploi. Parler d'obsolescence programmée, tout ça pose des problèmes. Et puis, la question de la fin de vie des matériaux. Si, par exemple, je prends ça ou je prends une voiture, et que ma voiture est totalement déconstructible, qu'on l'a pensée dès le début comme ça, à la fin de vie de la voiture, vous l'éclatez en 5-6 typologies de matériaux et vous êtes directement reparti dans le cycle classique. Vous voyez ? Donc la pensée cycle de vie, C'est décisif dans l'économie circulaire.
Jean-François Caron, extrait de la conférence « L'économie circulaire » tenue à Millau le 25 novembre 2015. Pourquoi à Millau ? Parce que la question de l'économie circulaire intéresse notre territoire. Il y a un an déjà, nous rencontrions des acteurs économiques locaux qui lançaient une démarche d'économie circulaire. Exemple avec Philippe Etuin, président du GECO des Grands Causses, qui nous présentait alors l'initiative d'une collecte coordonnée de palettes de bois usagées pour les reconditionner et les réutiliser. Ensuite, Philippe Etuin.
On s'est simplement demandé, entre les différents acteurs, les différents membres du GECO, s'il y avait un dénominateur commun sur lequel il était intéressant de travailler. Les déchets sont arrivés vraiment en pointe en se disant bah, tout le monde a des déchets à traiter. Maintenant, comment on les traite chacun de notre côté ? Bah, avant cela, avant de réfléchir de manière collective, c'était chacun devant sa porte. Donc chacun avec son collecteur. Et puis, vous imaginez, en fonction de chaque entreprise, le nombre d'allers-retours nécessaires. Ces palettes, une fois qu'elles sont à l'arrière des entreprises, elles servent pas à grand-chose. Donc il faut qu'un collecteur vienne les chercher pour s'en débarrasser. Bon, chaque entreprise du GECO, productrice de palettes, qui vont chacune de leur côté indiquer sur l'application qu'elles vont placer une trentaine de palettes prêtes à être récupérées par le collecteur. Tout cela va s'ajouter. Et au bout d'un certain quota fixé par le collecteur, la benne peut venir, peut récupérer sur les sites des différentes entreprises en un seul déplacement les palettes concernées, et puis voilà, repartir à plein. Chaque entreprise avec son collecteur. Maintenant, on a mutualisé le collecteur et on fait en sorte de rendre optimisé ce circuit de collecte. Ça change la manière de traiter ces déchets aussi vis-à-vis des entrepreneurs qui se sont sentis concernés par cette logique-là. S'associer dans une démarche collective autour des déchets, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense au départ, mais le concrétiser, c'est quand même une réussite en soi. Et ensuite, les palettes, c'est une chose, mais les plastiques, les films noirs, tous ces futurs déchets qui sont difficiles à prendre en charge dans les actuels cursus de revalorisation, ça peut être des potentiels futurs projet qu'on va développer au sein du GECO et qu'on va ouvrir aussi au sein des entreprises qui ont ce type de problématiques à gérer. Et mutualiser ces déchets, ça va dans le bon sens. Je pense que l'avenir, il est. On parle d'économie circulaire. On nous a dit que c'était le premier niveau de l'économie circulaire, d'essayer de mettre en place ce type de démarche. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt de l'économie humaine. J'aimerais bien entendre parler plus de ça. Parce qu'on a l'économie du capital, capitalistique, ça on sait ce que ça donne, enfin pour certains. Je ne porte pas de jugement, je dis simplement qu'aujourd'hui, ce qui se passe au sein du GECO, par exemple, c'est plus l'économie humaine, parce que c'est entre les hommes que ça se passe au cours de réunions qui se font une fois tous les deux ou trois mois. Et derrière ça, il y a les implications des entreprises, où on peut sentir concernés aussi les employés, les salariés, toutes les personnes qui sont des ressources. Quand on parle de ressources humaines, c'est un terme quand même un peu important. Je pense qu'on a chacun en nous un potentiel d'humanité et c'est ce potentiel-là qui peut ressortir, qui peut faire en sorte que l'économie fonctionne. C'est-à-dire que j'ai cette notion-là, moi, depuis que j'ai commencé à travailler. Il y a cette notion d'argent qui est nécessaire pour faire tourner les choses, mais j'ai essayé de placer au même niveau le côté humain. Alors ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est vrai que c'est ce qui ressort des engagements que j'ai actuellement dans ma vie. Encore une fois, seul, et par expérience aussi je le sais, seul on n'arrive jamais au bout de ces projets comme on le souhaiterait. C'est beaucoup plus plaisant d'y arriver ensemble. C'est pas les copains d'abord, si c'est les copains d'abord de Brassens, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas le terme copain, mais c'est l'esprit dans lequel on serait.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Deuxième partie de cette émission consacrée à l'économie circulaire, nous recevons Marc Héral et Martine Rouquette, élus au comité syndical du Parc. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Peut-être préciser les uns et les autres, qu'est-ce que ça veut dire cette élection au comité syndical? Marc, vous êtes élu, je crois, à Sylvanès.
Effectivement, je suis élu à Sylvanès et au titre de mes fonctions de conseiller municipal, j'ai été élu sur une liste qui représente des élus donc, du sud-ouest Aveyron.
D'accord. Et en quoi ça consiste d'être élu au comité syndical du Parc ?
Ben, ça consiste, comme toutes les instances et les collectivités territoriales, à délibérer sur différentes options et projets et budgets qui sont engagés sur le territoire du Parc.
C'est également votre cas, Martine Rouquette. Donc, vous êtes élu, vous, pour la commune de Saint-Juéry. Vous êtes également professionnel du tourisme avec des locations de gîtes. Vous êtes intéressé à la fois dans votre activité personnelle et en tant qu'élu à une autre forme d'économie circulaire. On l'oublie, c'est pas uniquement que des palettes qu'on reconditionne, c'est aussi des services, l'économie circulaire. Et vous nous parlez justement aujourd'hui d'un projet de randonnée que vous pouvez nous expliquer.
Oui, alors c'est un très beau projet de territoire qui est construit autour de la randonnée, dont le parc est maître d'ouvrage. Si vous voulez, en fait, il y a eu trois projets qui ont convergé. Un projet du parc qui cherchait à développer la randonnée dans notre partie du sud-ouest du parc, où il n'y avait que quelques... Enfin, il y avait des boucles, disons, des petits PR dans chaque commune.
Des
sentiers de petites randonnées.
D'accord.
Nous n'avons pas de GR sur notre territoire. Et ces boucles-là n'étaient pas encore reliées. Donc l'idée est partie de monter un projet pour relier ces boucles existantes, parce qu'il y avait quand même déjà pas mal de kilomètres, je crois qu'il y en avait déjà plus de 400 kilomètres, pour proposer des randonnées en marguerite autour des hébergements, beaucoup plus un maillage de sentiers beaucoup plus développé que l'existant, et puis pour essayer de monter un projet d'itinérance qui pourrait, par exemple, relier le plateau du Larzac avec le Tarn, en traversant les Rougiers.
Ça veut dire quoi, du coup, des sentiers en marguerite?
Ben, c'est quand des randonneurs décident de s'installer dans un hébergement pour plusieurs jours, et à partir de là, ils vont randonner, mais rentrer tous les soirs au même hébergement.
Ah, d'accord, donc c'est le point central, ils font des rayons autour.
Voilà, tandis que l'itinérance, c'est sur plusieurs jours, donc il faut réserver dans plusieurs hébergements.
Alors, c'est un projet qui concerne quels espaces, quelles communautés de communes, ça va de où à où?
Et ça concerne quatre communautés de communes, telles qu'elles sont à ce jour.
À ce jour, parce que ça change assez vite.
Voilà, donc c'est quand même, ça couvre la communauté de communes de Camarès, de Belmont, de Saint-Cernin, sur Anse, et les Sept-Vallons.
Qui est associé à ce projet?
Est associé à ce projet, et même à l'origine aussi du projet, c'est le conseil départemental qui avait, et ça peut-être Marc pourrait en parler mieux que moi, qui avait un projet qui s'appelle un TPE, c'est-à-dire...
C'est-à-dire le territoire projet enveloppe. Donc c'est un projet qui est en partenariat entre le conseil départemental, à ce moment-là d'ailleurs le conseiller général, et donc la chambre d'agriculture, et qui consiste justement à utiliser les moyens et toutes les ressources du développement dans le domaine touristique et dans le domaine des filières agricoles. Donc parmi les projets qui ont été mis en avant, et puis finalement au final choisis, dans le financement par le conseil départemental et donc en sollicitation des ressources et des compétences du parc, c'est ce projet de mise en œuvre de sentiers de randonnée, de création de produits touristiques à destination bien sûr du plus large public. Donc pour ça, évidemment, il fallait créer un certain nombre d'outils, un site internet, mais aussi il fallait se donner la possibilité de développer tout ce qui est du domaine des produits et des filières agricoles en circuit court.
Mais alors, on parle là de circuits de randonnée, donc des balades dans la nature. Quel lien ça a avec des producteurs locaux, notamment alors, agricoles?
Voilà, l'intérêt du projet, c'est de faire passer ces itinéraires par des exploitations agricoles qui font de la vente directe.
D'accord.
Donc c'est le côté original du projet, c'est-à-dire qu'on ne vend pas que du paysage. On vend aussi des produits qui sortent de nos fermes. Voilà. Donc ça, c'est il faut à partir de là, il suffit pas de le vouloir. Hein. C'est que il faut donc déjà des agriculteurs qui soient volontaires pour accueillir donc dans leur ferme des randonneurs. Voilà. Et puis, il nous a paru intéressant de développer, c'est-à-dire d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que le randonneur est passé par une ferme, a visité une bergerie, s'est fait expliquer peut-être, si l'agriculteur a le temps, mais s'est fait expliquer un petit peu comment ça fonctionne, principalement la filière Roquefort, puisque la plupart...
C'est la plus concernée dans le secteur.
Voilà. pourquoi ne pas aller plus loin ? Ça ne concerne pas d'ailleurs que les producteurs ou de fromage. Hein. Ça concerne aussi les producteurs de viande, hein, ou de charcuterie.
Les artisans aussi ?
Les artisans, les ateliers. Une biscuiterie, par exemple. On en a plusieurs sur le secteur.
Camarès,
Martrin. Et donc, d'aller plus loin et de se dire, bon, le randonneur a goûté le produit. Mais comment est-ce qu'on pourrait se débrouiller pour qu'ils repartent avec le produit ? Alors, ce n'est pas facile dans un sac à dos. Par exemple, si on randonne en pleine chaleur l'été. Donc, on essaie de monter une logistique pour que ce soit, par exemple, à l'hébergement où il va récupérer sa voiture. S'il fait de l'itinérance, par exemple, il peut avoir un point où de dépôt des produits. Et là, il peut, après avoir passé commande, il peut récupérer ses produits et rentrer chez lui avec des produits de notre territoire.
Et quel accueil vous avez eu de la part des producteurs, justement, pour cette idée ?
Alors, il est certain que ceux qui sont déjà organisés en circuit court sont partants. Parce qu'ils ont fait cette démarche qui n'est pas facile pour un agriculteur de passer de la production à la commercialisation. Voilà. Mmh. Donc, nous avons des associations, ou disons des collectifs, comme les Paysans du Rance, ou les circuités, qui ont déjà mis en place des plateformes pour leurs produits, de distribution de produits, ou qui sont en train de développer.
D'accord. Voilà. On en est où de ce projet ?
Alors, on en est à la partie ouverture des chemins, des liaisons et balisage.
Ça, c'est qui le fait sur le terrain ?
Donc, c'est le parc qui a la maîtrise d'ouvrage. Et c'est notre chargé de mission, Monsieur Rando, Joël Hatché, du parc, qui est à la fois sur le terrain, qui fait aussi toute la cartographie, qui est vraiment le maître d'ouvrage de tous ces travaux, qui fait aussi les liens avec les communes. Parce qu'il faut régler beaucoup de problèmes de foncier, il faut les autorisations. Tous ces sentiers doivent être inscrits au PDIPR, c'est-à-dire au plan départemental des itinéraires de randonnée, pour qu'il y ait une protection juridique de ces itinéraires, s'ils ne le sont pas déjà. Mais toutes les liaisons doivent être inscrites aussi. Donc c'est pour qu'il y ait une pérennité du réseau.
Tout ce qui concerne donc les sentiers de randonnée dans la partie sud-ouest du parc, donc on le redit, hein, communauté de communes de Camarès, de Belmont, de Saint-Cernin et des Sept-Vallons.
Voilà. Et l'intérêt aussi, c'est de faire des liaisons avec les réseaux qui sont déjà existants sur le plateau du Larzac et aussi dans le Saint-Africain, qui a un très beau maillage de circuits, notamment VTT. Puisque je dois ajouter aussi, c'est que ça ne concerne pas que la randonnée pédestre, mais aussi le VTT, et pour certains secteurs aussi, le cheval.
Alors on a Nadège Grimal, qui est chargée de communication au parc Notre-Dame-des-Grands-Causses, qui est avec nous, qui souhaite apporter une précision.
Et oui, je voulais juste rappeler qu'il existe aujourd'hui un site internet qui permet de promouvoir tous ces sentiers de randonnée, à travers un logiciel libre extrêmement performant, sur lequel justement Monsieur Rando, comme Martine le disait, Joël Hatché, rend tous ces sentiers tronçon par tronçon. Donc il y a une vraie précision avec des cartes IGN, ainsi que tous les services associés que l'on peut retrouver sur la randonnée, etc. Bref, tout cela, vous le trouvez sur Internet, Rando Grand Causse.
Voilà. Très bien, l'adresse est notée, elle sera indiquée bien sûr dans le podcast de cette émission.
Une autre vie s'invente ici,
l'équilibre énergétique en question.
Autre projet, je me tourne vers vous, Marc Héral. C'est un projet qui concerne aussi des producteurs locaux, mais qui met en œuvre un autre acteur du territoire qui n'est pas ceux auxquels on pense d'habitude, c'est La Poste. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi s'agit-il ?
Alors effectivement, ce second projet qui finalement est le prolongement du précédent, dans une logique bien comprise de tous les acteurs, ce qui a été réfléchi, c'est de pouvoir mettre à disposition un outil logistique pour les producteurs, parce que c'est là que ça chope quelque peu. Et aussi un produit pour les consommateurs qui puissent bénéficier de l'ensemble des productions du territoire du parc.
Alors concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, ça veut dire que, de par mes fonctions, anciennes fonctions au sein du groupe La Poste...
Vous étiez délégué du groupe La Poste en Aveyron, voilà. Il y a encore quelques temps.
Il y a encore pas si longtemps que ça. Donc j'ai mis en place un dispositif national démultiplié sur le territoire de l'Aveyron, qui s'appelle l'Alliance Dynamique, dont le concepteur national est l'ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, donc qui s'appelle Guy Ascouet, élu chez les Verts. Et ce dispositif consiste à mettre en œuvre un mouvement l'ensemble des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire, dans un but justement de mettre en œuvre du développement territorial local. Une fois que ça, on a dit ça, ça veut dire quoi ? Comment ça se traduit ?
C'est ça, c'est toujours pas très clair concrètement.
Voilà, mais il fallait dire ça quand même. Comment ça se traduit localement ? Ça veut dire tout simplement se mettre autour d'une table et commencer à construire un projet. Et là, on est vraiment en coproduction d'un projet où on va pouvoir justement mettre à disposition la logistique forte de la Poste grâce au fameux réseau des facteurs, réseau des bureaux de poste et des agences postales communales, pour mettre à disposition les produits en commercialisation, mais aussi avec la logistique du courrier, c'est-à-dire l'ensemble des plateformes courrier, qui permettront d'aller récupérer ces produits dans la plus petite des fermes ou dans la plus éloignée des fermes du territoire.
Mais alors, comment ça se construit ? Qui est intéressé à ce projet ?
Alors, qui est intéressé ? Évidemment, les associations qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire les associations qui sont des associations de producteurs. Évidemment, aussi les professionnels du tourisme, ça a été dit, d'où l'intérêt des deux projets, du rapprochement des deux projets. Et ensuite, j'imagine, parce qu'on est tous comme ça, on est tous demandeurs en tant que consommateurs de produits bio, de produits sains, le plus proche de chez nous, plutôt que de faire 1000 km pour les faire venir. Quand on voit que certains produits de production agricole viennent du fin fond de l'Espagne ou d'Argentine, on peut se dire que certaines de ces productions peuvent se retrouver ici sur le territoire, tout simplement près de chez nous. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'associer l'ensemble des intérêts, bien compris de l'ensemble de la production agricole, des consommateurs, et bien sûr, pourquoi pas, un organisme aussi important que la Poste, qui va pouvoir donner du travail complémentaire aux facteurs et aux équipes du courrier.
Mais alors là, justement, on se pose tout de suite une question. Ça veut dire qu'en gros, les facteurs vont transporter des palettes de tomates des fermes jusqu'au centre urbain. Concrètement, comment ça va se traduire ?
Alors voilà, concrètement, on est en train de poser la première pierre de ce projet. Vous avez entendu que j'ai dit le mot projet.
Un stade de projet.
Voilà, on est en train d'essayer de coproduire ce projet et les choses sont compliquées parce qu'elles sont nouvelles, parce qu'elles n'existent pas ailleurs. Et donc, il faut arriver à trouver les moyens logistiques les plus pertinents dans un modèle économique qu'il faudra contraindre, évidemment, puisqu'il faut que tout le monde puisse vivre sur ce projet.
Sachant que voilà, la Poste est une entreprise et qu'elle ne va pas faire ce projet à perte, on imagine bien.
C'est évident. Et j'imagine que si elle le fait, c'est aussi pour développer et participer dans le cadre du projet dit Alliance Dynamique, dans une logique de développement territorial. Mais elle le fait aussi pour que les facteurs, puisque vous évoquiez rapidement ce sujet, les facteurs aient une activité complémentaire à leur activité de courrier, qui, comme vous le savez, est en forte baisse, liée notamment au développement de tous les outils numériques qui sont à notre disposition.
Donc, quelque part, c'est un moyen, je vous parle en tant qu'ancien responsable de la Poste, de diversifier une activité pour une entreprise, tout en s'intégrant sur le territoire. Mais est-ce que les gens qui travaillent à la Poste, donc les facteurs, les agents de tri, sont prêts à aller vers ça ? Est-ce que c'est vraiment leur métier ?
Alors, pour vous parler de manière tout à fait retirée de mes fonctions de représentant du groupe La Poste, je vais vous parler très sincèrement. Je pense tout simplement qu'il y a encore quelques mois, peut-être à peine quelques années, effectivement, c'est quelque chose qui nous posait problème, à l'ensemble des personnels de la Poste, mais aussi à l'ensemble des dirigeants de la Poste. Parce qu'on voit bien que, par essence, un postier, quand il rentre à la Poste, ce qu'il souhaite, c'est, en l'occurrence un facteur, ce qu'il souhaite, c'est faire son travail de facteur. Et on n'imagine pas, a priori, n'imagine pas pouvoir avoir à un moment donné à distribuer des médicaments, apporter des colis de course, voire éventuellement à distribuer des produits en circuit court. Mais on voit bien que le courrier se fait rare dans les sacoches. Et que même la filière colis est fortement concurrencée. Donc il est nécessaire pour la Poste, mais aussi pour son personnel, d'avoir des activités complémentaires. Et le niveau d'adhésion, puisque c'est ce dont vous me parlez, la question que vous me posez, le niveau d'adhésion, même s'il n'était pas au rendez-vous il y a quelques mois ou quelques années à peine, je peux vous dire que maintenant, tout le monde a bien conscience que c'est le chemin et la voie qu'il faut prendre actuellement.
Et alors, ce projet, il s'implanterait sur quel espace, là encore? Est-ce qu'on est aussi sur le sud-ouest du parc? Ou là, on est sur tout l'espace du parc?
Alors, non, là, on est vraiment sur tout l'espace du parc, avec la volonté, et j'espère qu'on va y arriver, parce que c'est franchement pas simple, de pouvoir travailler sur l'intégralité du territoire du parc, avec, pourquoi pas, la possibilité de le démultiplier dans un futur parc, celui de l'Aubrac, ou d'autres territoires qui ne sont pas forcément organisés en parc.
Qui c'est qu'il y a dedans ce projet? Il y a la Poste, il y a les producteurs, il y a le parc, mais il y a les élus, j'imagine, les élus locaux, les élus départementaux. On en est où, en fait?
Vous les avez cités, il ne faut pas oublier la Chambre d'agriculture, qui est la maîtresse avec nous de ce projet. Les deux premières réunions ont consisté à mettre en place un diagnostic des difficultés que nous rencontrons. Les prochaines étapes d'un projet, évidemment, c'est de mettre en place ensuite le début du modèle économique. Parce que c'est ça qui fera qu'on s'arrêtera ou on continuera. Hein, on est bien d'accord.
Et c'est quoi les difficultés que vous rencontrez là, déjà?
Mais la première interrogation, pas une difficulté, c'est une interrogation. C'est se dire comment on peut aller récupérer dans une ferme éloignée et par qui? Est-ce que ça sera un facteur? Est-ce que ça sera, au contraire, le producteur qui viendra amener de manière centralisée ses produits? Est-ce que, par exemple, une professionnelle du tourisme pourra avoir en dépôt ses produits à disposition de sa clientèle, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est un jeu de questions qu'il va falloir se poser pour pouvoir, évidemment, continuer ensuite à mettre en place un plan d'action précis.
Don't go me.
Dernière partie de cette émission, une autre vie savante ici, l'équilibre énergétique en question consacré à l'économie circulaire. Voilà, on a parlé des projets de production, les projets de service. On évoquait il y a quelques minutes le projet de La Poste de faire du transport de colis du producteur au consommateur et d'utiliser le travail logistique de La Poste. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type-là aussi qui sont développés, je crois, par exemple pour les piles usagées?
Alors oui, effectivement, il y a ce projet qui est un projet que j'ai initié juste avant de quitter mes fonctions, qui consiste en fait à partir d'un industriel, qui est en l'occurrence la SNAM à Viviès, à côté de Cazeville, qui nous a sollicité pour justement mettre en œuvre un système qui permettrait d'aller au plus près récupérer les piles usagées, les petites piles de toutes formes, chez le particulier. La SNAM est une industrie importante qui recycle toutes les batteries industrielles qu'on peut possibles et imaginables. Et là, le but, c'est justement, son PDG, Eric Nottez, nous disait, mais comment on pourrait arriver à récupérer les piles chez le particulier? Vous avez un réseau de facteurs, à nouveau, vous voyez. Est-ce que ça ne serait pas une solution? Alors effectivement, avec Jean-Christian Luc, un collègue de la direction du courrier, nous avons développé une idée, et en l'occurrence, c'est l'idée qui va être mise en œuvre, c'est sur le territoire de l'Aveyron, parce que là, c'est une expérimentation aveyronnaise. La seule en France.
D'accord.
Qui a été validée par le siège à Paris de La Poste, qui a été validée par la SCRELEC, qui est l'éco-organisme qui a en charge, justement, un des deux éco-organismes qui a en charge la collecte des piles usagées, et surtout validée par les services de l'État, puisque ça, il y a un certain nombre d'obligations en matière de normes. La chose est simple. Le facteur va se rendre au domicile, comme tous les jours, des particuliers. Il va laisser un sachet par campagne, par rotation de campagne, va laisser un sachet dans la boîte aux lettres, et le particulier mettra ses piles dans le sachet. Sur le sachet, il y aura indiqué une adresse Internet. Il devra indiquer simplement, à un moment donné, qu'il a déposé dans sa propre boîte aux lettres des piles usagées. Et donc, le facteur, sur son smartphone, aura une signalétique qui indiquera qu'il doit aller récupérer ses piles dans la boîte aux lettres. Voilà, très simplement, comment ça va s'organiser. J'ai dit très simplement comment ça va s'organiser, mais c'est beaucoup plus compliqué, en fait,
puisque ça,
la logistique est derrière.
Voilà, là, concrètement, il faut le mettre en œuvre. Donc, ce sera au début de l'été, là, au mois de mai, ça démarre.
Voilà, il y a donc une expérimentation qui se met en œuvre sur le département de l'Aveyron et qui sera ensuite déployée au niveau national, je pense, très certainement en 2017.
Alors, on a ce projet avec des piles. On en parlait aussi d'un projet avec le bois de chauffage. Trouver du bois de chauffage localement pour alimenter des chaudières à bois produites localement. On a finalement aussi un projet, on en parlera tout à l'heure, autour de la mobilité. Est-ce que tout n'est pas économie circulaire, en fait? Est-ce que on n'est pas en train de réinventer la poudre avec la promotion de cette idée-là?
L'économie circulaire, il y a des théories, c'est un concept, mais il faut sortir du concept. Et je crois que le parc est là pour ça, c'est de proposer des solutions concrètes dans tous les domaines. Voilà. Là, on a parlé d'économie circulaire dans la distribution des produits, donc qui implique la logistique. Il y a bien sûr d'autres actions, c'est vraiment le début. Il y a beaucoup de projets, il y a une réflexion qui est en place, mais il faut passer au concret.
Mais justement, est-ce que c'est pas déjà un mot valise? On a le mot développement durable, dont on sait à quel point on peut l'utiliser à toutes les sauces. Est-ce que c'est pas justement que de la com, ce mot économie circulaire?
Faut savoir, lorsqu'on parle concrètement et qu'évidemment on a maîtrise tous les tenants et les aboutissants, Je pense que ce n'est pas que de la com. Là, ce dont on a parlé, on en est acteur. On construit ça étape par étape et de manière, j'allais dire, professionnelle, parce qu'on est aussi aidé par les services du parc qui nous aident, parce qu'il faut aussi, on n'a pas tous les tenants et aboutissants de tous les sujets. Donc, on est en train de construire. Et comme tout projet, à un moment donné, il capote, et on espère que ça ne sera pas le cas, ou au contraire, il va fructifier. J'imagine bien que les projets qu'on a cités ici vont fructifier.
Mais on sera en tout cas particulièrement attentif à leur évolution. Nadège Grimal.
Peut-être par rapport à votre question, simplement dire qu'effectivement, des grands groupes industriels ou grandes marques seraient susceptibles d'utiliser ce mot « valise ». Ici, on est quand même sur des institutions, sur un territoire avec beaucoup de ressources locales et où on peut vraiment réaliser des projets très concrets. Et comme on vient de l'expliquer, on est dans du factuel et non pas juste dans un concept d'économie circulaire.
Puisqu'on est dans le concret, le parc a d'autres projets d'économie circulaire. C'est un peu même le fil conducteur avec l'équilibre énergétique de toute cette série d'émissions. On le rappelle, produite par Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique avec le parc naturel régional des Grands Causses. C'est la question de la mobilité, où vous aussi, vous essayez de trouver des circuits courts, des systèmes d'économie locale.
Surtout des offres complémentaires où encore un service vient encore aider un autre service. Donc on a notamment développé l'affichage des aires de covoiturage. On a développé le réseau Pousse. Donc c'est pour faire les derniers kilomètres qui nous séparent du village à une ville où il y a un petit peu plus de passages, notamment sur la communauté de communes de Sainte-Afrique et qui va se développer à partir de la rentrée sur la communauté de communes de Millau-Grand-Causse. Et là, on va mettre aussi en place une nouvelle action sur Sainte-Afrique et sur Millau avec des locations de vélos à assistance électrique. On aura le temps de l'aborder, je pense, le mois prochain.
Ce sera le sujet, justement, dans la prochaine émission.
L'émission mobilité, où on va justement parler de toute cette complémentarité et de faire en sorte que, aujourd'hui, lorsqu'on a des vélos qui sont faits à partir de matières recyclées, que l'on va mettre à disposition des habitants pour qu'ils puissent les tester, pour qu'ils puissent derrière soit les acheter, soit avoir un bon de réduction pour aller acheter eux-mêmes un vélo à assistance électrique. Voilà, on est dans un cercle vertueux. Ces cercles vertueux, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est pas simplement le recyclage et la valorisation des déchets, pas du tout. On est vraiment aussi bien dans la consommation responsable que de l'éco-conception, etc. Dès qu'on rentre dans un cercle vertueux, on peut parler de projets d'économie circulaire.
Donc on peut imaginer demain que les randonneurs iront à pied d'une ferme à une autre avant de prendre le réseau Pousse pour aller dans un autre village, puis un vélo assistance électrique conduit par un agent de la poste.
Pour après être hébergé dans une hébergerie. Les hébergeries qui sont faites avec notamment avec de la production énergétique renouvelable.
Et un réseau
qui mange des circuits courts. Et...
dans le plus beau monde aveyronnais.
C'est une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici. Ben, on espère qu'elle s'inventera avec ses beaux projets qui sont sur la table. Merci à toutes, merci à tous. Prochain rendez-vous donc dans un mois sur les ondes de Radio Larzac autour de la question de la mobilité. Avec nous aujourd'hui, donc, nous avions Martine Rouquette, Marc Héral, donc élus tous les deux au comité syndical du parc, et Nadège Grimal, responsable de la communication du parc naturel régional des Grands Causses. Merci à vous tous.
Merci. Merci.
Une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable.
Bâtiment.
Transport.
Sobriété énergétique.
Économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.